Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne Dianis Kanyinda. Il est journaliste et il est chef de division communication et presse de l'inspection générale des finances IGF. Il est également doctorant en communication à l'université des sciences de l'information et de la communication UNISIC en sigle. Bonjour Dianis Kanyinda.
Bonjour cher Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et aussi en ligne, Frédéric Kwamba, il est avocat, il est membre de la société civile et membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Bonjour au maître Frédéric Kwamba.
Bonjour monsieur Guy Maté. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Chanson, il est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la RDC. Bonjour Romain Chanson.
Bonjour Guy Maté, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Du 29 juin au 5 juillet 2026, dialogue entre Congolais, Okapi Service, Parole aux auditeurs, Grand Témoin et Okapi Métissage aborderont des sujets liés aux 66 ans d'indépendance de la RDC. Ce n'est pas tout. La matinale de votre radio vous fera revivre quelques grands moments de la lutte pour l'indépendance avec des témoignages des celles et ceux qui ont marqué notre histoire. Radio Okapi vous fait voyager dans le temps au rythme de l'indépendance de la RDC. Du 29 juin au 5 juillet 2026, un rendez-vous à ne pas manquer. Radio Okapi célèbre les 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Dianis Kanyinda. Il est journaliste et il est chef des divisions communication et presse de l'inspection générale des finances IGF en sigle. Il est également doctorant en communication à l'université des sciences de l'information et de la communication UNISIC en sigle. Frédéric Kwamba, il est avocat, il est membre de la société civile, il est membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel, il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Chanson, il est journaliste au magazine Jeune Afrique et il est chargé de la RDC. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir prestation de Léopard à la Coupe du Monde 2026. 27 juin 2025, 27 juin 2026, cela fait un an depuis la signature de l'accord de paix de Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Quelle évaluation faire de la mise en œuvre de cet accord une année après sa signature? Et enfin, amélioration de la gouvernance publique en RDC, l'inspection générale des finances met en place un plan stratégique triennal 2026-2028. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la prise de position de la CENCO sur les débats relatifs au changement de la Constitution. En effet, la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO s'oppose à toute initiative visant la modification des textes fondamentaux du pays. Dans un communiqué publié à Kinshasa le 20 juin à l'issue d'une assemblée plénière extraordinaire, les évêques catholiques qualifient l'éventualité d'un référendum constitutionnel des préludes à la balkanisation de la République démocratique du Congo. La CENCOM estime que les débats autour d'un éventuel changement de la Constitution se déroulent dans un contexte marqué par des tensions, la peur, des pressions et des restrictions des voix discordantes. Elle considère cette situation comme susceptible de fragiliser les fondements du pacte républicain. Dans son communiqué, l'institution religieuse appelle le président de la République au respect de son serment constitutionnel et l'exhorte à privilégier le dialogue ainsi que le strict respect de la légalité afin de préserver la stabilité du pays. Réagissant à cette prise de position de la CENCO, l'Union sacrée de la Nation a affirmé que l'examen et la révision de la loi fondamentale relèvent des prérogatives institutionnelles et non d'une ingérence ecclésiastique. Dianit Kaninda, comment vous comprenez cette prise de position de la CENCO relative au débat sur les changements de la Constitution en RDC?
Bon, merci beaucoup, cher Guy Maté, pour la question. Moi, je pense que la CENCO, évidemment, est dans son rôle de pouvoir jouer de l'arbitre lorsqu'il y a des questions politiques électorales en RDC, comme d'habitude. Mais ici, il convient quand même de souligner que la CENCO est en train, en quelque sorte, de mettre la charrue devant le bœuf. Parce que nous savons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté jusque-là la loi référendaire. Mais le vote de la loi référendaire a ouvert un débat dont le temps n'a pas encore sonné. C'est lequel? C'est le débat sur le référendum, l'organisation du référendum. Et c'est ce référendum-là qui, en quelque sorte, fait peur aujourd'hui à l'opposition politique qui vient trouver un appui auprès des évêques catholiques. Mais ici, il faut souligner que la loi référendaire qui a été votée au Parlement, c'est un peu le guide qui va aider les Congolais aujourd'hui à savoir où est-ce qu'on vote, par exemple, pour le référendum. Quel est le contenu qu'on met pour soumettre au peuple congolais au référendum? On dit quoi dans ce texte-là? On va voter où? Dans les écoles? Ce jour-là, ce sera un jour férié? Est-ce qu'on va aller voter dans toutes les provinces? On va voter? C'est cette loi référendaire qui précise les mécanismes de l'organisation du déroulement du référendum dans notre pays. Donc, cette loi-là était importante. Moi, je crois qu'il fallait même saluer ici l'initiative parlementaire parce que elle vient compléter l'arsenal juridique de notre pays en termes de l'organisation du référendum qui n'est pas lié essentiellement à la question des élections. On peut organiser le référendum pour poser la question au peuple congolais sur, par exemple, la gestion aujourd'hui de nos forêts, sur la gestion, par exemple, de nos eaux, sur la gestion du barrage 3 Dinga. Donc, on peut organiser le référendum sur plusieurs matières, dont la loi référendaire n'a rien à voir avec l'organisation du référendum pour un quelconque troisième mandat. Souvenez-vous que le président de la République, dans sa dernière conférence de presse, a dit qu'il n'était pas question que nous puissions organiser les élections pendant que l'Est de notre pays est aujourd'hui occupé par des armées étrangères. Donc ça, c'est une manière de dire que la CENCO aujourd'hui est en train de déplacer le débat. Mais s'agissant de l'opportunité, de l'inopportunité du référendum, je crois que cette question-là, encore une fois, le président de la République avait promis de mettre en place un cadre qui regrouperait la société civile, les forces politiques, les forces vives, pour réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons penser de notre Constitution qui aujourd'hui a totalisé 20 ans par rapport aux enjeux économiques, par rapport aux enjeux africains, par rapport aux enjeux politiques et que sais-je. Il faut qu'il y ait une réflexion. On ne peut pas aujourd'hui substituer la CENCO au peuple congolais. On ne peut pas substituer un parti politique au peuple congolais. Donc, lorsque nous sommes face à des questions qui représente des grands enjeux, par exemple, le contrat qui a été signé entre la RDC, le Rwanda, les États-Unis d'Amérique. Tout ça, c'est des questions qui peuvent être prises en compte aujourd'hui dans la réforme constitutionnelle que nous pouvons envisager dans notre pays pour répondre aux vrais besoins. Merci. Des Congolais qui se marient avec les enjeux
politiques, les enjeux géopolitiques au niveau africain.
Merci beaucoup. Frédéric Kwamba, l'Union sacrée de la nation a fermement réagi à cette déclaration de l'ATENCO, même si on s'attendait, n'est-ce pas, à cette réaction de la majorité présidentielle. Mais est-ce que on ne peut pas s'inquiéter de la manière dont cette question est en train de polariser les forces vives de la nation, Frédéric Kwamba?
Oui, Monsieur Dimaté. Pour moi, je considère que la sortie de la CENCO s'inscrit dans une tradition constante, celle d'une vigilance citoyenne face aux risques de dérives institutionnelles. Les évêques ne s'opposent pas au débat démocratique comme ce qui se passe au Parlement. Donc, ils alertent sur le contexte dans lequel ce débat est lancé. Les climats de peur, les restrictions de voix discordantes, des tensions sécuritaires persistantes et une opinion publique fragmentée. Donc, dans un tel environnement, ouvrir la question d'un référendum constitutionnel peut être perçu comme une tentative de reconfigurer les règles du jeu au moment où les institutions devraient plutôt renforcer la confiance. Mais pour moi, au moment où la CENCO parle de prélude à la balkanisation, c'est un terme fort qui traduit une inquiétude très claire, mais je n'adhère pas à cette idée, car il n'existe aucun rapport entre la constitution et l'idée de la balkanisation. Soutenir cela, c'est une manière d'ignorer l'histoire de notre constitution, car la RDC a traversé même des moments sans constitution. Il n'y a pas eu balkanisation. Je rappelle que lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il avait mis de côté la Constitution et a créé un décret de loi constitutionnelle pour gérer le pays pendant tout son mandat. La RDC a résisté dans son unité sans Constitution. Mobutu également, il a modifié plusieurs fois sa Constitution. Mais la RDC est restée dans son unité et la Constitution n'avait pas eu d'impact sur la question de la balkanisation.
Maître Frédéric Kwamba, sans être le porte-voix de la CENCO, mais si aujourd'hui il y a un référendum, n'est-ce pas, qui aboutit au changement de la Constitution, vous savez que nous sommes dans un pays où il y a une partie des territoires qui sont contrôlés par la rébellion, cela voudrait dire que, logiquement, cette partie-là ne sera pas concernée par ces votes-là. Et donc, du coup, on risque d'avoir deux parties du pays régies par deux textes différents. N'est-ce pas ça qui pousse la CENCO à évoquer cette possibilité de balkaniser les pays à travers cette démarche initiée par la majorité au pouvoir?
Donc, le Congo est déjà balkanisé, parce qu'aujourd'hui où nous parlons, il y a un côté du territoire national qui n'est pas dirigé par Kinshasa. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas penser que la question de la balkanisation peut être attachée à celle de la Constitution. Parce que la Constitution elle-même, est-ce qu'on l'exécute? On ne la suit jamais au Congo. Prenez même le pouvoir du président de la République. Chez nous, les chefs de gouvernement, c'est les premiers ministres. Mais tous les chefs de l'État qui sont venus, qui gouvernent, jamais n'ont respecté la Constitution. Donc le débat sur la Constitution ne peut pas faire de rapport avec la question de la balkanisation.
Voilà, mais est-ce qu'au-delà de ça, comme je vous ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter de la manière dont ce débat est en train, n'est-ce pas, de polariser la société congolaise?
Oui, nous nous inquiétons, je vous ai dit dans mon introduction, que la démarche de la CENCO, c'est une vigilance citoyenne. Mais par rapport à la situation actuelle, les climats de peur, les restrictions de voix discordantes, les tensions sécuritaires, tout ça, oui, les craintes sont là. Ce n'est pas le moment de cette histoire de référendum, tout ça, ce n'est pas le moment. Là, je suis d'accord totalement avec la CENCO. Mais quand la CENCO veut attacher la question du référendum ou de la modification de la Constitution avec celle de la balkanisation, c'est là où moi je m'inscris en faux. Nous devons débattre de l'inopportunité de revoir la Constitution aujourd'hui. Là, je suis d'accord. Mais on ne peut pas rattacher ça à une idée de la balkanisation.
Merci Romain Chanson. Comment vous entrevoyez la suite de ces débats relatifs au changement de la Constitution en RDC?
J'aimerais rebondir sur ce que disait votre invité. Il disait que la Senko a mis peut-être la charrue avant les bœufs puisque le référendum n'est pas pour demain. Mais on pourrait objecter le fait que c'est le gouvernement qui met la charrue avant les bœufs puisque la Senko répétait que la priorité des priorités, ce n'était pas une élection à référendum, mais c'était un grand dialogue national inclusif. Les églises protestantes et catholiques ont mené une grande tournée internationale avec l'aval, même la bénédiction du président Tshisekedi pour faire le plaidoyer de ce dialogue. Un rapport a été fait. Aujourd'hui, on ne parle plus de dialogue. On parle de référendum. Alors, faire un référendum dans un pays qui est occupé, qui n'est pas pacifié et qui est extrêmement polarisé, comme vous l'avez mis vous l'avez souligné, monsieur Guimaté, voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment l'Église devient peut-être un peu l'ennemi du pouvoir, avec des invectives, avec l'occupation d'un terrain à l'archevêché de Kinshasa le 20 juin. Donc voilà, la polarisation que vous évoquiez prend une tournure un peu risquée, un peu dangereuse, je trouve. Et c'est ce qu'on va suivre dans les prochains jours et les prochains mois.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Nzale de Taboulé dans Afrique internationale et on se retrouve juste après.
Nayoki asala kombo nzale kasi nakomi tuna soki asalo matoyoki
nakomi zoba nalata pantalon na mekasi misi nabima libanda nakota na ndako
radio eleli lisusu nayoki babengina Molimo eke ia solo pa benina
Na komizoba Na simba moto na simba maboko Na lata sapato na mekali papa
Na lalite na moto ya kaka koloto Nzale ho mama ho nzale Nzale monamu nzale
Na komizoba Na kanga makasi na kema makasi Na lela mabe na panza konsuki
Lobi na lobi tala kokolo lakie Atenga kinga mila makita popo wapima Nzale ho mama ho nzale Nzale ho mama ho nzale Pesa na liloba ho nzale Nzale mon amour nzale Tobo tite mama ho nzale Nibala bo mwana ho nzale Nzale mon amour nzale
C'était Nzale de Taboulé dans Afrique internationale. On rappelle que c'est depuis le 30 novembre 2013 que le seigneur Rochero Taboulé nous a quittés. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. La République démocratique du Congo a été battue le mercredi 24 juin à Guadalajara, au Mexique, par la Colombie sur le score d'un but à zéro. Il s'agissait d'un match de la deuxième journée du groupe K. Le jeu a été largement dominé par les Colombiens qui ont effectué plusieurs tirs cadrés. Cependant, ils se sont heurtés au mur défensif de la RDC et à la vigilance du gardien Lionel Passy. Ce dernier a fait un match héroïque. L'unique but de la rencontre est arrivé à la 76e minute dans un cafouillage survenu dans la surface des réparations congolaises. C'est le joueur colombien Munoz qui a marqué ce but. Pourtant, le mercredi 17 juin, au stade de Houston aux États-Unis, un match de la première journée du groupe K, la RDC a créé la sensation pour son entrée en Coupe du Monde 2026. Les Léopards ont tenu en échec le Portugal, un but partout. Un résultat historique qui a suscité fierté et espoir chez de nombreux Congolais. Frédéric Kwamba, vous êtes avocat, vous êtes membre de la société civile et membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa Gombe à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous êtes aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de la prestation de Léopards à la Coupe du Monde 2026. On vous écoute.
Oui, monsieur Guimaté. Les deux matchs des Léopards, c'était comme l'année et le jour. Donc, on n'a pas reconnu les Léopards lors de leur deuxième sortie. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas se dire que nous sommes allés pour remporter la Coupe. Mais la participation est déjà une fête pour nous. Pour de multiples raisons, les années passées sans accéder à la Coupe du Monde, et que cette année, les Léopards donnent cette fierté et l'unité et une respiration collective à un pays souvent meurtri. Donc, leur parcours dépasse le football. Donc, pour nous, c'est un acte de résilience nationale. Donc, la prestation des Léopards est plus qu'un événement sportif pour nous. Ce que nous devons retenir, donc, c'est un moment de cohésion nationale parce que c'est le rare instant où les Congolais de toutes les provinces, de toutes les sensibilités, se sont sentis unis parce qu'on en avait besoin.
Voilà. Et s'il faut revenir sur la prestation de Léopard, hein, avec les jeux qu'on a mis en place, caractérisés par une attaque qui ne rassure pas, on ne pouvait pas s'attendre au résultat auquel on a assisté à l'issue du match contre la Colombie, maître Frédéric Kwamba.
Évidemment, nous avons eu une prestation médiocre. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, on n'a pas compris quelle était l'intention de l'entraîneur. Parce qu'avant chaque match, coach a toujours une mission. Et il donne aux joueurs qui sont sur le terrain parce qu'ils ne jouent pas. On n'a pas compris que les jeux qu'on a démontrés contre le Portugal n'a pas pu être réimprimé. Nous avons commencé de la même manière comme nous avons commencé contre le Portugal, mais nous n'avons pas modifié notre jeu jusqu'à la fin. C'est-à-dire que nous avons suivi du début jusqu'à la fin. Donc, ce qui démontre que soit le coach est limité par rapport au niveau de la compétition, parce que la Coupe du Monde, c'est une autre compétition qui n'est pas la même que les compétitions inférieures au niveau national que nous les voyons ici, ou des matchs amicaux. C'est-à-dire, la Coupe du Monde, on va démontrer le haut niveau. C'est-à-dire, on va démontrer cette intention de vouloir gagner, de vouloir démontrer les jeux, tout ça, on ne l'a pas fait. Donc, nous, étions le gardien des buts, on aurait encaissé à peu près 8 buts, parce que les tirs cadrés, les meilleurs, c'était plus d'un tir que le gardien a réussi quand même à nous protéger. Donc, au-delà de tout ça, c'est le football, oui, mais nous devons être, avoir des ambitions, être ambitieux. C'est la participation, c'est la fête, oui. Mais après la Coupe du Monde, nous allons venir pour analyser ce qui serait passé. Donc nous devons savoir ce que nous faisons dans cette Coupe du Monde. Mais l'autre paire de manches, c'est ce que je dis. Après plusieurs années, le fait seulement d'avoir obtenu un titre pour la Coupe du Monde, c'était peut-être insuffisant pour nous. Allez-y comprendre, c'est comme quelqu'un qui a été abandonné pendant longtemps, dès qu'il a un repas de manches, c'est suffisant d'abord. Donc, je ne peux qu'encourager et féliciter ceux qui participent parce qu'ils ne peuvent donner que ce que nous leur avons offert.
Merci. Merci, Romain Chanson. Vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique, vous êtes chargé de la RDC. Vous également, hein, quelle est votre appréciation de la prestation de Léopards lors des deux matchs qu'ils ont joués jusque-là dans cette compétition?
Je voudrais dire déjà que j'en ai vu qu'un, j'ai vu que le premier, puisqu'il était à une heure raisonnable pour moi, mais je l'ai
contre
vu
le Portugal, Lubumbashi, hein.
Et, exactement, mmh. Et j'étais à Lubumbashi, et donc j'ai vu la population folle de joie avec cette égalisation, donc je suis content de voir que cette Coupe du Monde élargie à 48 équipes permet une meilleure représentation des équipes africaines, et que la RDC a soigné en tout cas son entrée pour son premier match historique. Maintenant, en effet, la critique répandue contre l'équipe nationale de l'RDC, c'est qu'elle est trop défensive, qu'elle a des lacunes en attaque. Et si elle veut être la meilleure des troisièmes équipes pour aller en sixième de finale, il va falloir qu'elle marque beaucoup de buts contre l'Ouzbékistan. Il va falloir complètement changer de mentalité, mettre tout le monde en attaque et ensuite planter des buts, parce que le Portugal a mis 5-0 à l'Ouzbékistan. Donc il faudrait copier ce genre de prestations. La Colombie a mis 3-1 à l'Ouzbékistan. Donc si la RDC veut valider son ticket pour les 16e et rejoindre l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, marque l'histoire en allant un petit peu plus loin du monde, va falloir se mettre à attaquer. Je trouve que c'est bien d'avoir été en mode survie pour les deux premières rencontres. Ils ont pris peu de buts, enfin un but à la fois. Donc voilà, maintenant il faut changer de mentalité et aller de l'avant.
Merci. Yannis Kaninda, vous êtes journaliste, vous êtes chef de division communication et presse de l'inspection générale des finances IGF. Vous êtes également doctorant en communication à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC en sigle. Quels sont les atouts qui, s'ils sont bien exploités par l'entraîneur, pourraient permettre au Léopard de bien évoluer, n'est-ce pas, dans cette compétition, Yannis Kaninda?
Bon, Guy Maté, s'il te plaît, avant de parler de ces atouts, j'aimerais d'abord souligner un élément important, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan des symboles, sur le plan de l'image, aujourd'hui, le travail abattu par l'équipe nationale, les Léopards de la RDC, revient au fait comme un symbole de l'unité nationale, un symbole du prestige d'appartenir à une seule nation qui a été célébrée à la fois dans la partie est comme la partie ouest de la RDC. Ça, c'est un élément important qu'il faut capitaliser dans cette participation de la RDC au Mondial 52 ans après. Mais je crois aussi que la RDC garde encore ses chances d'être qualifiée au niveau de 16e des finales, parce qu'elle a cette chance-là d'être retenue comme meilleure 3e. Bien évidemment qu'il faut marquer des buts. Ça, c'est un élément important. Mais l'enjeu ici, c'est cette soif-là. J'ai suivi quelqu'un qui disait « Les Congolais jouent avec le cœur ». Oui, c'est vrai. Nous avons aujourd'hui une histoire qui est caractérisée par beaucoup de pleurs, beaucoup de sang et ainsi de suite. Et lorsque les Congolais ont l'occasion de se réjouir, ça ne rate pas. Et je crois que c'est un enjeu majeur qu'a des sabres entre ses mains par rapport à toute l'équipe. Oui, c'est vrai. Lionel Messi a repoussé l'adversaire par son jeu, il a capté des tirs cadrés et tout ça. Oui, c'est une chose, mais il a joué son rôle et il a joué pleinement. Et je pense que ça, c'est une capitalisation de son rôle qui peut être aussi maximisée par rapport à toutes les forces que nous avons, si bien qu'aujourd'hui, on a un souci au niveau de l'attaque, parce que ça revient dans toutes les analyses, ça revient dans toutes les bouches quand on parle de l'attaque, ligne d'attaque congolaise en tout cas, ça pose encore des soucis. Au niveau de la défense, nous sommes bien solides, mais je crois que si l'entraîneur essaye, parce qu'on a réclamé des attaquants qui sont restés sur les bancs de touche pendant tout ce temps, qu'il peut encore remettre sur la scène pour pouvoir donner beaucoup plus de chances au Léopard congolais. Nous ne pouvons pas, comme disait le premier intervenant tout à l'heure, nous ne pouvons pas avoir le même tactique que nous avons mis en scène par rapport à l'équipe portugaise face à l'Ouzbékistan. Nous devons en tout cas prendre l'initiative, aller de l'avant, ne pas attendre le deuxième mi-temps, ne pas attendre d'encaisser. Il faut vraiment que nous puissions mener le jeu, et ça de l'attaque que l'entraîneur va devoir mettre en place, parce que si nous attendons et que nous subissons que l'Ouzbékistan commence à mener, ou alors que nous puissions commencer à suivre derrière le ballon, je crois que ça sera encore un peu plus compliqué pour nous. Mais même si l'étape que nous avons franchie aujourd'hui est très remarquable, que nous puissions participer au Mondial, je crois que nous devons encore monter en ambition, espérer atteindre le 16e de finale et pourquoi pas le 8e,
parce que la fierté africaine est tributaire aussi à ce que nous pouvons démontrer sur le terrain.
Merci.
Et ne pas faiblir à ce stade ici.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. La qualité en RDC, c'est aussi la qualité musicale. Le jeudi 25 juin, les mélomanes du monde entier ont commémoré la disparition d'une des icônes culturelles internationales majeures du XXe siècle, une célébrité planétaire, Michael Jackson. Il nous a quitté le 25 juin 2009 à Los Angeles, aux États-Unis. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques intitulé Beat It. Et on revient juste après.
Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la prise de position de la CENCO sur les débats relatifs au changement de la constitution en RDC. Nous avons également analysé la prestation de Léopard à la Coupe du Monde 2026. Participe à cette émission, Jenny Kaninda, il est journaliste et il est chef de division communication et presse de l'inspection générale des finances IGF. Il est également doctorant en communication à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNICIC en sigle. Frédéric Kwamba, il est avocat, il est membre de la société civile, il est membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture OMCT en sigle. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Chanson, il est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la RDC. Les représentants de la République démocratique du Congo, du Rwanda, des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine se sont réunis ce jeudi 25 juin à Londres dans le cadre de la sixième réunion du comité conjoint de suivi de l'accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali le 27 juin 2025. Au terme de cette rencontre, les participants ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Dans un communiqué publié par la Commission de l'Union africaine, les comités ont notamment évoqué l'escalade des combats, l'impact des frappes des drones sur les populations civiles et les processus de paix, ainsi que les conséquences de l'épidémie d'Ebola en cours dans la région. Face à cette situation, les partis ont convenu de la nécessité de prendre des mesures concrètes pour rendre le cessez-le-feu pleinement effectif. Selon le communiqué, la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix conclu à Washington le 27 juin 2025, y compris les dispositions relatives aux frappes des drones. Les deux pays se sont également engagés à réduire immédiatement les tensions, en particulier dans la zone de Minembwe, et à utiliser leur influence respective auprès des différents acteurs présents sur le terrain afin de favoriser l'apaisement. Romain Chanson, vous avez souhaité faire l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda une année après sa signature par le ministre des Affaires étrangères des deux pays à Washington. On vous écoute.
Oui, en effet, ça y est, c'est l'anniversaire, donc on peut faire cette petite évaluation en trois points assez facilement. Un point sécuritaire d'abord, qui a eu des avancées. Pas vraiment, il y a un gel des positions, en effet, les rebelles n'ont pas gagné de territoire, et je suis même retiré de l'Iran, sinon le territoire occupé. Voilà, il n'y a pas de respect du cessez-le-feu, il n'y a pas eu d'échange de prisonniers qui est pourtant une mesure de confiance, il n'y a pas eu de retrait des troupes rwandaises, il n'y a pas eu de neutralisation des FDLR, donc le point sécuritaire n'est pas achevé. La question économique, on sait que la RDC et le Rwanda avaient signé un cadre d'intégration économique régionale, un accord gagnant-gagnant pour que chacun profite ensemble des ressources de la région, ça n'a rien donné pour l'instant. Et puis les investissements américains en RDC sont aussi plutôt limités. Il y a eu Cobold qui fait de la prospection, qui n'est pas encore dans l'extraction. Et puis il y a l'américain Virtus qui a racheté la Chemaf, mais la mine n'est pas opérationnelle. Et puis un dernier point, le point diplomatique. Là on peut dire que les RDC a engrangé des points. Le Congo a réussi à se mettre un peu l'Amérique dans la poche et a obtenu plusieurs condamnations, des sanctions contre des intérêts ou des personnalités rwandaises. Encore hier, c'était une raffinerie d'or, pardon, rwandaise qui a été sanctionnée, ou l'ancien président Joseph Kabila qui a été sanctionné. Donc, côté diplo, la RDC a engrangé des points, mais en règle générale, il n'y a pas grand-chose qui a avancé au bout d'un an. Il y a un rapport d'évaluation du baromètre des accords de paix en Afrique qui existe et qui estime que la mise en œuvre de l'accord de Washington n'a atteint que 35% des objectifs fixés.
Au-delà du fait qu'on constate sur le terrain, comme vous l'avez dit, que les choses n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité, mais au-delà de ça, peut-on espérer un règlement pacifique de cette crise un jour, Romain Chanson?
Ah, on peut toujours l'espérer, puisqu'il y a toujours de la diplomatie qui est en cours. Vous l'avez dit, ils se sont réunis hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais pas demain en tout cas, puisque les objectifs initiaux fixés par les deux parties ne sont pas atteints, il n'y a même aucune avancée. Allez, les deux piliers principaux de cet accord de paix, c'était la neutralisation des FDLR et donc le retrait des troupes rwandaises en commun. Sur la question notamment de la neutralisation des FDLR, on ne sait pas quelle est la définition même de cette neutralisation. S'il en reste un, est-ce que c'est neutralisé ou il faut combien soit neutralisé, tués, emprisonnés, voilà, on ne comprend pas trop les contours de ce point très important. Donc s'ils ne se mettent pas d'accord sur une définition un peu plus précise de la neutralisation des VLR, on risque de ne pas avancer.
Merci, Johnny Kalinda. On a suivi, hein, dans ces textes que nous avons lus, les deux parties qui ont convenu, n'est-ce pas, de la nécessité de prendre des mesures concrètes pour rendre les cessez-le-feu pleinement effectifs et aussi à réduire immédiatement les tensions sur le terrain des hostilités. Et qu'est-ce qui peut rassurer que cette fois-ci, les partis vont respecter leurs engagements? Parce qu'il faut les rappeler que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que ces partis prennent ce genre d'engagement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un contexte qui peut nous aider à espérer que, effectivement, cette fois-ci, les deux parties vont être sérieuses, vont respecter leurs engagements.
Bon, en tout cas, d'entrée de jeu, il faut déjà préciser que, parce que Romain parlait tout à l'heure du baromètre, moi j'aimerais bien préciser ici que lorsqu'on évalue ces accords-là, on trouve que la communauté internationale est aujourd'hui à 53% d'exécution de ses engagements, donc elle est en tête, suivie de la RDC et le Rwanda vient en dernière position par rapport au respect des engagements consignés dans cet accord. Et je crois ici que le gage qui peut aider aujourd'hui à nourrir les espoirs au niveau des Congolais et même aussi au niveau africain et même aussi du Rwanda, c'est simplement le fait que Kigali n'écoute que le langage des sanctions. C'est lorsqu'il y a des sanctions que Kigali essaye de reculer ou essaye de bouger les lignes au niveau du front sécuritaire. Moi, je pense que les États-Unis d'Amérique s'étant portés garant au niveau de l'exécution de ces accords, c'est le seul gage que nous avons aujourd'hui, cher Guy, pour que ces engagements soient respectés. Regardez, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle des sanctions des entreprises rwandaises au niveau de raffinerie, de l'or, et ainsi de suite, ça, ce sont des pressions qui s'exercent pour pousser exactement Kigali à pouvoir revenir sur ces accords, parce que c'est le seul issue que nous avons aujourd'hui pour retrouver la paix dans la partie orientale de notre pays. Parce que je ne vois pas, sur le plan militaire, on sait que à chaque fois que les FARDC avancent sur le terrain, eh bien, on brandit cet argument-là, oh non, cessez le feu, ainsi de suite. Non, voilà, les FARDC attaquent là où il y a la population civile, alors qu'on sait que c'est faux. C'est pas toutefois que les FARDC avancent vers les civils, c'est faux. Mais on sait que l'option diplomatique aujourd'hui, qui est privilégiée par le président congolais Félix Tshisekedi et qui est aujourd'hui soutenue par les États-Unis d'Amérique, reste la voie, la seule voie d'ailleurs, qui peut nous amener à faire reculer le Rwanda, parce qu'on sent au moins qu'avec la diplomatie, Kigali est asphyxié, et puisqu'il est asphyxié, il sera obligé de revenir à la raison, même si Kigali aujourd'hui bénéficie de l'appui de certaines forces occidentales, notamment européennes, qui je ne sais pas pour quelles raisons sont en train aujourd'hui de soutenir la voix de Kigali. Moi je pense, cher Guy en tout cas, sauf crainte d'être contredit, que nous avons la seule voie qui peut permettre de pouvoir restaurer la paix dans l'Est du Congo. C'est ces accords-là qui ont été signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais il faut en tout cas beaucoup de pression sur les plans diplomatiques sur Kigali pour que finalement Kagame puisse retirer ses troupes, parce que c'était ça le plus grand engagement, le retrait de ses troupes sur le territoire congolais. Lorsqu'on regarde la question des FDLR, la partie où on décrit la présence de l'FDLR aujourd'hui est occupée par les forces rwandaises. Alors, mais comment est-ce qu'ils n'arrivent pas, eux, à traquer les FDLR et à les mettre hors d'état de nuire ou à les rapatrier chez eux? Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'élément essentiel que nous avons, c'est la pression diplomatique sur Kigali pour pouvoir restaurer la paix dans la partie est de notre pays.
Merci Frédéric Kwamba. La neutralisation des FDLR par la RDC et la levée des mesures défensives par les Rwanda, à votre avis, quels pourraient être les pesanteurs, n'est-ce pas, pour les deux parties à pouvoir respecter ces deux principaux engagements? Vous avez suivi Dionis Kalinda qui évoque le fait que les FDLR se trouvent dans des entités sous contrôle des rebelles du M23. Et ça peut être, n'est-ce pas, une des pesanteurs qui ne permet pas à la RDC de respecter son engagement. Mais est-ce qu'il y a d'autres pesanteurs qui peuvent expliquer le fait que les deux parties n'arrivent pas à respecter surtout les deux principaux engagements?
Monsieur Dumas, il y a premièrement une question de volonté de part des autres. Parce que quand on veut la paix, on va dans le sens de la paix. Et je rappelle que la paix ne se mesure pas dans les communiqués, mais dans la sécurité réelle des civils. Et l'accord de Washington est un pas, oui, mais pas encore une solution. Parce que pour qu'on arrive à une solution, il doit être accompagné d'un mécanisme de suivi indépendant, d'engagement vérifiable sur terrain. Parce qu'aujourd'hui, chacun qui verra de son côté, et d'une volonté politique, je parle de la volonté, d'une volonté politique ferme de mettre fin au soutien discret ou indirect aux groupes armés. Donc l'accord de Washington a réduit l'intensité des tensions diplomatiques, oui, mais n'a pas encore produit les transformations sécuritaires attendues par les populations. Néanmoins, l'accord a permis de responsable de la rhétorique hostile, Rwanda, RDC, la reprise de certains canaux de communication, oui, une stabilisation relative des relations bilatérales, c'est pas acquis. Mais sur le plan sécuritaire que nous recherchons, le terrain raconte une autre histoire. Les populations du Nord Kivu, Ituri, n'ont pas encore ressenti des effets concrets de cet accord. Donc les groupes armés restent actifs, les déplacements des populations continuent et les violations graves des droits humains persistent. Donc c'est pourquoi il faut un mécanisme de suivi, des engagements et la volonté politique. Tant cela, nous allons rester dans les communiqués par les autres. Le Rwanda va donner son communiqué, la RDC va donner son communiqué.
Merci. On fera une petite pause en écoutant I Have a Dream de Abba et on se retrouve juste après. C'était I Have a Dream du groupe musical suédois ABBA. I Have a Dream, une façon de dire que nous pouvons aussi rêver, voir une RDC débarrassée de tous ces groupes armés et à la base, n'est-ce pas, de l'insécurité dans la partie est du pays. Je rappelle que nous avons dans cette émission Dionis Kalinda, il est journaliste et il est chef de division communication et presse de l'inspection générale des finances IGF. Il est également doctorant en communication à l'université des sciences et de l'information et de la communication unicique en sigle. Frédéric Kwamba, il est avocat, il est membre de la société civile, il est membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est aussi membre du groupe d'intervention judiciaire de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT en sigle. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Chanson, il est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la RDC. L'inspection générale des finances, IGF, s'est dotée de nouveaux moyens de contrôle systémique. Ces dispositifs numériques, présentés au mois de mai dernier à Kinshasa lors d'une conférence de presse animée par Christophe Bitassimoua, inspecteur général des finances et chef de service, intervient 39 ans après la création de ces gendarmes financiers congolais. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'IGF qui ambitionne de se transformer en véritable organe d'intelligence financière. Selon Christophe Bitassimoua, le contrôle systémique est préventif. Il permet de détecter les défaillances avant les pertes, notamment les fraudes, les évasions, les gaspillages. Il s'appuie sur l'interconnexion des systèmes d'information fiscaux, douaniers, paye, marché public, ainsi de suite. Il a ajouté que ce contrôle est permanent, en temps réel, interconnecté et analytique, centré sur la traçabilité, la cohérence et la performance des systèmes de gestion publique. Jonith Kaninda, vous avez souhaité justement nous parler de l'Inspection générale des finances qui vient de mettre en place un plan stratégique triennal 2026-2028 en vue d'améliorer la gouvernance publique en RDC. On vous écoute.
Oh, merci beaucoup, Guy Maté. Non, il faut d'abord souligner que l'idée ici, c'est que l'Inspection générale des finances, vous l'avez très bien résumé, va se positionner comme une structure, un organe d'intelligence du gouvernement congolais ou de l'État congolais, parce que vous savez que l'État lui-même est un grand système. Et ce système-là, État, est composé des sous-systèmes qui se trouvent être, par exemple, les sous-systèmes santé, les sous-systèmes économie, les sous-systèmes politiques, les sous-systèmes ainsi de suite. Et dans les sous-systèmes économiques, vous avez par exemple le système de gestion des finances publiques, vous avez par exemple le système de récolte des recettes, ainsi de suite. Et ce système-là évolue avec les enjeux au niveau mondial. Le monde aujourd'hui est en train de battre au rythme du digital, au rythme du numérique. Mais regardez que dans notre administration, nous sommes restés un peu trop dans la paperasse, nous sommes restés dans le système traditionnel depuis toutes ces années. Voilà qui a conduit l'Inspection générale des finances à pouvoir poser un diagnostic sur les faiblesses que représente aujourd'hui l'approche traditionnelle que nous avons utilisée pour le contrôle des finances publiques, parce qu'il fallait arriver à gérer les flux financiers en RDC, réduire les risques d'effets négatifs sur les finances publiques. Alors, c'est comme ça que l'IGF a mis en place un plan stratégique triennal qui va aider la République démocratique du Congo à pouvoir stabiliser la gestion des flux financiers sur l'ensemble du territoire en tenant compte de tous les paramètres, notamment au niveau des recettes, au niveau des dépenses, au niveau de régies financières, ainsi de suite. Et ce plan stratégique triennal est assorti d'une méthode qui permettra à l'IGF de pouvoir cerner tout ce qui se passe en termes de flux financiers en RDC. C'est ce qu'on appelle le contrôle systémique. Parce qu'on sait que l'IGF travaille dans le contrôle avec trois approches. Auparavant, on avait le contrôle a posteriori, le contrôle concomitant et le contrôle a priori, donc a posteriori, concomitant et a priori. Mais maintenant, l'IGF ajoute une nouvelle donne. Et cette nouvelle donne, c'est quoi? C'est le contrôle systémique qui consiste à pouvoir faire un contrôle sur le présent à travers un mécanisme digital, à travers un système informatisé qui sera implanté sur l'ensemble de passage des flux financiers. L'IGF va commencer à contrôler ces flux-là à partir d'un système informatisé digital qui va lui permettre de détecter les failles dans le système à chaque fois qu'il y a une validation qui n'est pas obtenue avant de décaisser les francs congolais. Ça va sonner l'alerte au niveau de l'IGF pour pouvoir intervenir
avant que les dégâts ne soient commis, parce qu'on a constaté chaque fois que l'IGF intervenait après les dégâts, ça devenait compliqué à pouvoir mettre la main sur les fonds de l'État.
Voilà, c'est une réforme importante, hein. Mais est-ce que cette réforme est opérationnelle immédiatement, il sera opérationnel tout de suite, ou il y a encore des préalables qui doivent être accomplis avant de mettre ces mécanismes en fonction?
En tout cas, pour l'instant, c'est l'infrastructure qui est en pleine construction. Il faut dire que ce plan triennal de l'IGF est déjà en cours d'exécution. Il y a plusieurs phases. Il y a notamment la phase qui consiste à mettre l'infrastructure en place, parce que vous vous en doutez bien, faire un contrôle à partir du digital ou du numérique nécessite une infrastructure conséquente, et c'est ce qui est en train d'être fait pour l'instant. Il y a aussi la partie formation qui est en train de se dérouler. À l'instant où je vous parle, les inspecteurs des finances sont en formation et les équipes d'appoint de l'IGF sont en formation, et vous avez vu, même les hommes des médias, la société civile, tout ça sont passés par la formation pour permettre une vulgarisation d'abord du système que l'IGF est en train de mettre en place. Donc, c'est un plan triennal. Le contrôle systémique est en train de s'installer progressivement à partir déjà de certaines phases qui sont en train d'être accomplies avec les actes sécuritaires qui ont été déjà ciblés, qui sont en train d'être mis en place en ce moment. Il y a des logiciels qui sont en train d'être acquis par l'Inspection générale des finances qui vont se connecter à d'autres logiciels qui existent déjà en RDC, et c'est toute cette infrastructure-là qui est en train d'être mise en place déjà. Maintenant que nous vous parlons, c'est en train d'être mise en place, et le contrôle systémique va finalement, au terme de ce plan triennal, au terme des échéances qui ont été déjà fixées, le contrôle systémique va démarrer, mais cela n'exclut pas le contrôle en ce moment. Le contrôle est en train de se faire comme il se faisait par le passé à travers les mécanismes existants. Mais le contrôle systémique qui est basé sur le digital, sur le numérique, est en train d'arriver progressivement avec la mise en place de tous les axes des actions qui doivent être mises en place.
Merci Romain Chanson. Quels pourraient être, n'est-ce pas, les mérites d'une telle réforme dans un pays où les gens ont pris l'habitude, n'est-ce pas, de détourner les fonds, les deniers publics, les gens se livrent, n'est-ce pas, à des pratiques comme la corruption. Et quel pourrait être le mérite d'une telle réforme dans un tel pays?
En effet, je trouve ça très bien que l'IGF se renforce et prenne ce sujet à bras-le-corps. Je voulais peut-être avoir une question en fait pour notre invité, pour M. Dionis Kanyinda, puisque l'IGF, on en a beaucoup parlé quand c'était Jules Ligne d'été, qui était le monsieur anticorruption de Félix Tshisekedi, qui a beaucoup d'affaires gênantes pour le pouvoir. Donc ma question pour Dionis Kanyinda, c'est est-ce que l'IGF, l'inspecteur en chef Christophe Bitassemo, est devenu moins politique? Et est-ce que vous avez encore les capacités à sortir des gros dossiers, des grosses affaires, peut-être qui m'auraient échappé?
Voilà, ça c'est une question à vous, Dionis Kanyinda, vous avez compris?
Il faut dire que le système de travail de l'Inspection générale des finances ne repose pas sur un individu. Il faut dire d'abord que les inspecteurs des finances travaillent dans un corps. Et dans ces corps, les mérites ne peuvent pas revenir à un seul homme. Et aujourd'hui, le mérite qui revient à l'inspecteur général des finances, chef de service, c'est de pouvoir coordonner les actions de contrôle. Mais il faut noter que le travail de lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, c'est un travail qui concerne le peuple congolais, qui concerne chaque Congolais, qui concerne chaque dirigeant. Mais ici, je crois comprendre que le fait que l'inspecteur général des finances, chef de service actuel, ne veuille pas beaucoup parler ou se mettre en vue, laisse croire que l'IGF n'est plus en mesure de mettre la main sur des gros dossiers. Non, c'est faux. Jusqu'aujourd'hui, l'IGF continue à faire ses preuves, l'IGF continue à démontrer. Une fois, il disait, ceux qui sont contrôlés savent que l'IGF continue de travailler. Mais seulement, l'IGF s'est mis dans une position de ne pas trop parler, mais plutôt faire le travail, parce que c'est une institution qui est rattachée au président de la République. En tant qu'autorité de tutelle, l'IGF lui doit le rapport. L'IGF transmet son rapport après les enquêtes sur le terrain, transmet le rapport. Il appartient au chef de l'État, il appartient à l'IGF de pouvoir, une fois obtenu l'écriture du chef de l'État sur la communication autour d'un dossier, autour d'un rapport, de pouvoir le faire, mais il n'appartient pas à l'Inspection générale des finances de pouvoir être tout le temps au devant de la scène pour dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous, c'est lui que nous avons attrapé ici, merci, nous avons attrapé là. Et il faut noter que l'Inspecteur général des finances, chef de service, est un agent public de l'État. Et en tant que tel, il est soumis au devoir de réserve. Pour parler, il lui faut des autorisations de sa hiérarchie.
Merci.
En tant qu'agent public de l'État. Voilà.
Merci Frédéric Kouamba. Nous allons terminer cette émission avec vous. Ce mécanisme que l'IGF vient de mettre en place, vous pensez qu'il est susceptible de décourager la commission de certaines pratiques, nous l'avons évoqué ici, des pratiques comme la corruption, comme le détournement des deniers publics?
Bon, moi je pense que sur papier, oui, mais pas en pratique. Pour quelles raisons? Parce que la question de la lutte contre la corruption n'est pas seulement une affaire technique, comme on a l'habitude de le faire. Réforme, restructuration. Non, c'est d'abord une exigence démocratique et un droit fondamental des citoyens que nous sommes à une gestion saine de nos ressources par l'administration. Donc on peut tout faire, on peut tout dire. Aussi longtemps que tout le travail effectué par l'IGF ne repose pas sur certains piliers. C'est vrai que l'indépendance des chefs, de ceux qui mènent les enquêtes, la protection des lanceurs d'alerte, des inspecteurs, oui. Mais s'il n'y a pas la publication systématique des rapports qu'on nous fait à nous, en tant que citoyens, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas la redevabilité, ça va servir à quoi? En RDC, oui, oui, il y a la corruption. Mais si on veut lutter contre la corruption, nous n'allons pas rester sur le plan technique. Il faut, ce que j'ai dit, qu'il y ait quand même cette redevabilité. Que l'on nous dise, quand l'IGF mène des enquêtes, on nous dit ici que non, on envoie les rapports auprès du président de la République pour qu'à son tour, il prenne des décisions. Mais qu'est-ce qu'ils disent par rapport à nous, les citoyens? C'est ça ce qui est important.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Romain Chanson, Diony Tekaninda et Frédéric Kouamba. Merci aussi à Paul Bagnanyama qui est à la technique avec la participation de Dieudonné Nyangassa, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Nzélé, cette belle composition de Madilou System, extrait de l'album Yajan, sorti en 1994, et on se retrouve le samedi prochain.
Mi colo mi palenga la cama. sopani mori mwe komi kaina. Nalingi na ye baso kito lingana, nalingi ba ye baba susu basa la sua. Sele mute mananga iwa boliko, ebo kio deside kamo motino wana. Sele, bate la mime konga na kope sayo, so kio bebi sile lo bango baseka. Sele motema na naiwa boiko, ebongi on deside amo.